Comme je l'ai dit tout à l'heure, les anges ne manquent pas d'activité en cette période de Noël, et en particulier l'ange Gabriel. Il y a 6 mois, il était chez Zacharie pour annoncer la nouvelle de la naissance de Jean-Baptiste, de Zacharie le sacrificateur. Et aujourd'hui, il est en Galilée, dans une petite bourgade inconnue du nom de Nazareth, dans l'appartement d'une jeune fille qui s'appelle Marie, comme des milliers d'autres à l'époque. Et on est loin du temple et des sacrificateurs, comme Zacharie, on est dans la chambre d'une jeune femme moderne du 1er siècle. Et ce récit de l'évangile de Luc nous met en présence de Marie. Et avec Marie, les protestants ont parfois quelques problèmes. Et on sait toutes les dérives du culte ou de la vénération de Marie. L'expression « Mère de Dieu » apparue au 5e siècle après Jésus-Christ nous gêne déjà. L'Immaculée Conception, la virginité perpétuelle de Marie, l'Assomption, les prières à Marie, toutes ces pratiques qui ont au fur et à mesure été érigées en dogme pour l'Église catholique. Et nous pensons en tant que protestants que ces dogmes ne sont pas bibliques et qui sont en plus théologiquement dangereux parce qu'ils détournent l'attention. Et protestants, en tant que protestants, nous mettons en avant l'Écriture seule, la Bible seule, la sola scriptura. La grâce seule et surtout Jésus seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et donc sur la question de Marie, le rideau protestant tombe lourdement. Mais en tirant le rideau sur la question de Marie, il ne faudrait pas non plus faire disparaître de la scène cette jeune femme du 1er siècle que Dieu a choisie pour porter Jésus, le Sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne faudrait pas qu'en réaction à toutes les dérives, nous oublions Marie, son rôle, son exemple, sa foi. Une jeune femme catholique de tradition et d'éducation catholique est venue vers moi un jour et m'a dit, l'air presque effaré, j'ai appris que vous, les protestants, vous ne croyez pas en Marie. Mais c'est un énorme malentendu. Nous croyons en Marie telle que la Bible nous en parle, et elle nous en parle au chapitre 1 de l'évangile de Luc, dans ce qu'on appelle l'annonce faite à Marie. Et ce qui est frappant dans ce récit, je ne sais pas ce qui vous a frappé, si ça vous a frappé, outre sa beauté, sa sobriété, c'est très beau comme texte, c'est son côté scandaleux. On a tendance depuis des siècles à aseptiser le récit de Noël, à mettre des auréoles un petit peu partout, à avoir des visages très souriants et doux, il l'était peut-être, mais il faut bien se rendre compte que tout commence par un scandale. Un énorme scandale, une jeune fille tombe enceinte et elle n'est pas mariée. Ou elle n'est pas encore mariée, elle est fiancée et donc déjà engagée. Et à l'époque, les fiançailles sont déjà un engagement définitif qui demande un divorce en cas de rupture de fiançailles. Et vous imaginez le scandale pour Marie et sa famille, la réputation de Marie et de ses proches est mise en jeu. Il y aura des ragots, il y aura des soupçons, il y aura des sourires en coin, il y aura des ricanements. Tu as vu, c'est celle qui... Mais Marie est prête à tout et à tout risquer, même sa réputation, pour se mettre au service de Dieu. La petite Marie est prête à vivre le scandale, à voir sa réputation partir en fumée, à entendre les réflexions derrière son dos et à voir les sourires entendus. Elle est prête à être l'objet d'un scandale parce que pour elle, il y a des choses plus importantes que ça. Et quelque part, Marie est une révolutionnaire. Elle est prête à marcher à contre-courant de la société, à se moquer du candidat-on, et tout cela pour Dieu. Et je me disais qu'au lieu de lui mettre un voile bleu et un visage angélique à Marie, on pourrait lui mettre des combat shoes et un t-shirt à la Che Guevara et quelques piercings dans le nez. Nous n'irons pas jusque-là, mais enfin c'est fait. Mais Marie est une jeune femme fantastique, prête à tout pour Dieu, prête à perdre sa réputation pour que Dieu soit glorifié dans sa vie et par sa vie. Et on se demande si ce n'est pas pour cela que Dieu l'a choisie entre toutes pour porter Jésus. Elle n'était manifestement pas plus sainte qu'une autre, pas moins non plus. Mais la sainteté n'a jamais été un critère de choix pour Dieu. Ce qui était déterminant pour le choix de Dieu, semble-t-il, c'est cette disponibilité de Marie à vivre quelque chose d'étrange et de dangereux pour elle et pour son confort personnel. Oui, Dieu pourrait avoir choisi Marie pour cela, car Dieu est toujours prêt ou utilise toujours ceux qui sont prêts à partir à l'aventure avec lui et pour lui, à risquer leur réputation. Et Marie est prête, et Marie est une aventurière. Alors quand elle dit « Comment cela se peut-il puisque je suis vierge ?», on comprend que Marie, elle a saisi quand même toute la complexité de l'affaire, et elle a compris aussi que sa réputation était un peu en jeu. Mais il n'y a pas non plus de doute dans ce qu'elle demande. Elle pose juste la question du comment. Et l'ange lui répond en utilisant une image poétique. Et le Saint-Esprit le couvrira de son ombre, te couvrira de son ombre, oui. Comme pour la nuée dans l'Ancien Testament qui rentrait dans le sanctuaire et qui remplissait ce sanctuaire. Alors on n'est pas beaucoup plus avancé du point de vue obstétrique, mais cet enfant vient de Dieu lui-même. Et l'ange continue en précisant le nom et surtout la grandeur de cet enfant qui va naître. Et il utilise un futur simple. Il sera grand. Et il y a beaucoup de puissance dans ce sera. Il n'y a pas à revenir là-dessus, ce n'est pas une conjoncture. Il n'y a pas de si tout se passe bien, s'il grandit bien, s'il passe son baptême, sa première communion, sa confirmation, etc. Non, Jésus n'est pas adopté comme fils de Dieu parce qu'il serait obéissant. Non, il l'est. Il sera grand et saint pour sauver le monde. Et Marie prend tout cela et dit oui sans hésitation. Elle ne demande pas de signe comme Zacharie, mais elle en reçoit un quand même. Tu sais, ta cousine était très vieille, mais elle est quand même tombée enceinte. Rien n'est impossible à Dieu et Marie aura besoin certainement de signes pour alimenter sa foi tout au long de sa grossesse et encore après. Mais pour l'instant, elle est prête à risquer sa réputation de jeune femme juive de bonne famille pour répondre à l'appel de Dieu. Et en ceci, elle est pour nous un incroyable exemple. Pour nous qui avons peut-être tendance à rester dans le socialement correct, dans le religieusement correct, dans le socialement correct, je l'ai déjà dit, dans tout ce que vous voulez, mais tant que cela reste correct. Correct, souvent synonyme de tranquille. Et je me dis qu'en cette période de Noël, où tout se fera comme d'habitude très correctement, nous avons besoin de retrouver ce parfum de scandale qui émane du premier Noël de cette jeune fille. En ce Noël 2016, nous devrions être prêts à vivre un certain scandale en tant que chrétiens pour pouvoir glorifier Dieu d'une manière particulière dans notre vie. Sommes-nous prêts à partir à l'aventure comme Marie avec Dieu ? Parce que même si nous ne nous appelons pas Marie, Dieu nous a choisis, nous aussi, en Jésus-Christ. Dieu nous appelle chacun par notre nom pour que notre vie porte du fruit, pour que notre vie fasse la différence. Alors pour mieux vivre de son exemple, j'aimerais rapidement encore souligner deux aspects de cette scandaleuse Marie. Et le premier aspect était le fait qu'elle était prête à risquer sa réputation pour Dieu. Le deuxième, c'est qu'elle a une relation particulière avec la grâce de Dieu. Et le mot grâce revient deux fois dans les paroles de l'ange de l'évangile de Luc au chapitre 1. Et vous ne l'avez pas entendu tout à l'heure à la lecture parce que la Semeur, la Bible, cette traduction particulière qui s'appelle la Semeur, traduit grâce par faveur. Et donc la première fois que le mot grâce arrive, c'est dans la salutation quand l'ange lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ». Et j'ouvre une parenthèse, il n'est pas dit « Je te salue, Marie, pleine de grâce », non ? C'est une mauvaise traduction qui laisserait entendre que pleine de grâce, elle pourrait en transmettre aux autres, mais le terme dans l'original en grec met l'accent sur la réception de la grâce. D'ailleurs, même la Bible de Jérusalem, une Bible de traduction catholique, parle de comblée de grâce. Elle reçoit une grâce, c'est-à-dire une faveur de Dieu, un regard favorable qui se pose sur elle. Alors comment va-t-elle réagir ? Comment va-t-elle recevoir cette grâce ? Avec cette réponse, peut-être... Va-t-elle répondre avec cette réponse devenue extrêmement populaire en raison d'un vendeur de savon pour cheveux qui sait parler aux femmes ? Je la reçois parce que je le vaux bien. Mais Marie est à des années-lumière de cela. Elle reçoit cette grâce avec énormément d'humilité. Et selon les traductions, on parlera de troubles, de surprises et même de bouleversements intérieurs. Elle est bouleversée, Marie, de recevoir cette grâce. Pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'elle ne la mérite pas. Parce que Marie ne voit rien dans sa vie qui mériterait une telle salutation. Elle ne voit rien en elle qui puisse attirer la faveur ou la grâce. Et c'est pour ça qu'elle est troublée. Je ne mérite pas tout cela. Vous savez, quand on vit quelque chose de désagréable dans la vie, nous nous posons parfois la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Est-ce que je mérite vraiment cela ? Et parfois, on ajoute le bon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Mais quand quelque chose de bon, de super agréable et d'inattendu nous arrive, on ne se pose jamais cette question. Qu'est-ce que je fais de bien pour mériter ça ? Non, on prend la chose, on la reçoit, comme si c'était dû quelque part. C'est normal. Mais Marie, elle reçoit cette grâce et elle se demande si elle la mérite. En fait, elle considère cette grâce comme ce qu'est vraiment une grâce, c'est-à-dire un cadeau immérité. Et plus loin dans son fameux cantique, le Magnificat, elle dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Et vous avez noté que Marie parle d'un Sauveur. Mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. Et qui a besoin d'un Sauveur ? Celui ou celle qui a besoin d'être sauvé. Et Marie a conscience, non pas qu'elle ne mérite rien, mais elle a conscience de ce dont elle a besoin. Elle a besoin d'un Sauveur parce que Marie a conscience de son insuffisance, de ses limites, de son incapacité à faire le bien qu'elle voudrait peut-être faire, mais sans jamais y parvenir complètement, de son incapacité à rendre toutes les personnes autour d'elle heureuses. Elle a besoin de quelqu'un qui viendrait prendre sur lui tout ce qui la sépare du Dieu trois fois saint, et Marie a l'humilité de reconnaître qu'elle a besoin d'un Sauveur, et c'est cette profonde humilité qui la rend si utile pour Dieu, et c'est pour cela aussi qu'elle a été choisie, non pas pour sa sainteté, mais pour son humilité à reconnaître qu'elle aussi elle a besoin d'un Sauveur. Et son exemple pourrait nous inspirer ce matin. Alors que Noël approche, alors que vous l'avez entendu sur tous les tons ce matin, qu'un Sauveur nous est né, est-ce que nous sommes prêts à recevoir cette grâce avec humilité, de reconnaître que nous avons besoin aussi d'un Sauveur, que nous ne sommes pas des self-made men ou des self-made women, mais que nous avons besoin d'un Sauveur ? Et puis, troisième et dernier point qui vient à la fin du passage, c'est Marie qui conclut par ces mots incroyables pour une jeune fille qui, 10 minutes avant, allait mener une vie tranquille. Elle dit « Je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole. » Alors on pourrait dire que c'est un joli verset biblique, mais ce serait oublier que c'est une jeune fille qui la prononce, une jeune fille qui n'a rien demandé à personne, qui a déjà fait certainement des plans pour sa vie. Ben oui, elle voulait se marier avec Joseph, elle le fera, mais... Et elle abandonne tous ses plans pour se soumettre à celui de Dieu, pour partir à l'aventure d'une grossesse improbable. Qui a déjà porté le Fils de Dieu ? Est-ce que ça s'est déjà fait ? Est-ce que Dieu s'est déjà incarné ? Non, tout est nouveau. Et elle dit oui, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Et on sait bien, nous, que cette grossesse ne va pas lui apporter que des joies. Plutôt même des problèmes. Personne ne veut voir son fils rejeté par tout le gratin de la société. Aucune mère ne veut voir son fils mourir d'une mort violente dans la trentaine. Et on ne sait pas à l'époque, mais on peut imaginer qu'elle a dû pressentir que tout ne se ferait pas sans heurts et sans souffrances. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Pouvons-nous aussi dire cela ? Je suis le serviteur de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et décidément, il me semble que cette scandaleuse Marie a des choses à nous dire pour être des hommes et des femmes utiles pour Dieu aujourd'hui dans ce monde qui en a bien besoin. Comme elle, une grâce nous a été faite, comme elle, un appel nous a adressé, allons-nous répondre comme elle ? En étant prêt à risquer sa réputation pour Dieu, en déclarant sa dépendance complète par rapport à la grâce de Dieu, en étant disponible pour adhérer pleinement au plan de Dieu, quitte à abandonner quelques ambitions personnelles et un peu de confort. Ouais, Marie, c'est du costaud. Et le chant que nous allons entendre n'est pas un chant d'adoration à Marie, mais un chant qui nous parle de Marie. Il s'intitule « Marie, savais-tu ?» Marie, savais-tu que tout cela allait arriver ? Non, tu ne le savais pas. Peut-être tu le pressentais seulement, mais tu as dit oui à Dieu malgré tout. Et cela s'appelle la foi. Marie, une femme de foi, et en cela, elle est exemplaire.